France Inter.
Normalienne, enseignante, auteure, docteur en cinéma et chef cuisinière, Adèle Yon a commencé une thèse sur le double féminin fantôme, sujet qui entrait en résonance avec l'histoire de son arrière-grand-mère, enfermée 17 ans en institution psychiatrique et lobotomisée suite à un diagnostic de schizophrénie. Sa descendante a alors vite mélangé histoire psychiatrique et familiale dans ses recherches, lui faisant mener une enquête réhabilitant la mémoire d'une femme au sujet de laquelle les langues se sont difficilement déliées. Une réflexion sur le non-dit, l'héritage et le déterminisme, publiée sous le titre « Mon vrai nom est Elisabeth » et parue aux éditions du Sous-Sol. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Adèle Yon.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Alors, ce matin, j'étais à un cours de gym suédoise. Je fais beaucoup de gym suédoise en ce moment, ça me défoule. Et il y avait une femme à côté de moi que j'avais pas trop remarquée au début, qui rentrait pas vraiment, disons, dans les canons de la beauté telle que diffusée par la publicité ou les médias en général. Et je faisais pas particulièrement attention à elle. Et au moment des étirements, à la fin du cours, elle s'est mise à danser. Et elle dansait magnifiquement bien. Et je l'ai regardée, elle avait l'air complètement centrée en elle-même, c'était très beau.
Ouais, je vous comprends. Vous avez fait des études cinématographiques, vous êtes docteur et vous enseignez aussi.
Oui, je suis pas en poste, mais j'ai des étudiants. Cette année, j'ai animé un atelier d'enquête familiale avec une dizaine d'étudiants qui donc faisaient des recherches sur un membre de leur famille, des étudiants qui venaient de disciplines très différentes. Et on a restitué ce travail par une exposition collective qui a eu lieu à l'ENS au mois de février. C'était un très beau travail.
Ben on va parler d'enquête familiale ce soir, évidemment, mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de l'influence de vos deux parents sur votre parcours, puisque d'un côté, vous avez un père qui est exportateur de films indépendants. J'imagine que c'est ce qui vous a guidé vers des études cinématographiques.
Oui, en partie, mon père nous faisait un ciné-club quand j'étais petite, tous les mardis soirs.
Oh, mais le mardi, c'est permis, mais à domicile.
Tout à fait. On avait le droit à un club sandwich cuisiné par ses soins, et puis on se mettait toutes devant la télé avec mes deux sœurs, et il nous montrait tout ce qui avait fait ses émotions cinématographiques quand il était plus jeune.
Ah mais c'est magnifique. Donc la nourriture venait aussi un peu de lui et pas uniquement de votre mère qui a travaillé dans des cabinets ministériels puis a fondé une mangerie dans la Sarthe où vous œuvrez parfois comme chef cuisinière. Qu'est-ce qu'une mangerie ?
Une mangerie, c'est un lieu, c'est ma mère qui a choisi ce nom, c'est un lieu dédié à l'alimentation puisque c'est à la fois donc un restaurant, une épicerie, une boulangerie, une cave à vin. C'est un lieu où on mange, on parle de nourriture, on sociabilise autour de la nourriture.
Donc c'est vos deux parents qui vous ont guidé vers ces intérêts ou vous les aviez déjà assez précocement ?
Vous voulez dire que j'arrive pas à choisir entre mon père et ma mère ou...
Pas du tout. Écoutez, je m'appelle Sigmund, mais je ne me permettrai pas. Il est très critiqué dans votre livre en plus, Sigmund.
Pas tant que ça.
Un petit peu, par un des personnages.
C'est vrai. Je pense que mon père m'a effectivement donné cet intérêt, ce goût très fort et très tôt pour le cinéma. En revanche, la nourriture, c'est venu d'une autre manière parce que ma mère travaillait en maraîchage. En fait, quand elle s'est reconvertie, elle a créé une exploitation agricole. Et c'est moi qui ai plutôt poussé le côté alimentaire du projet. Mais c'était pas, on mangeait pas particulièrement bien dans ma famille. J'ai été éduquée au surgelé, comme beaucoup d'enfants parisiens dans les années 90. Et c'est un goût qui est venu vraiment plus tard.
Pardon, je ris parce que je m'identifie. Quel est votre plat signature ?
Alors, c'est le pâté en croûte, puisque j'ai eu la chance d'apprendre la cuisine avec une chef qui est à Marseille, qui était bouchère de formation, qui s'est spécialisée dans la charcuterie, qui m'a appris la découpe du cochon et a confectionné un certain nombre de charcuteries, des charcuteries fraîches comme les pâtés ou les pâtés en croûte, et puis des salaisons comme les saucissons ou autres merveilles que j'aime aussi confectionner.
Mais il y a des champions de pâté en croûte, hein, c'est quelque chose d'assez sérieux. Et d'ailleurs, ça me rappelle que dans votre livre Adèle Yon, il y a un moment où vous opposez le geste boucher au geste cuisinier.
Oui, tout à fait, parce que enfin, c'est vraiment la manière dont on tient le couteau. C'est-à-dire que en cuisine, on vise la précision et donc on tient le couteau par... j'aurais du mal à l'expliquer à la radio, mais disons par au-dessus avec la lame tendue vers l'avant, alors qu'en boucherie, on le tient par au-dessus, mais comme un poignard avec la lame tendue vers soi. Donc le geste est complètement opposé parce qu'en fait, en boucherie, il faut de la force. Il faut pouvoir donner l'impulsion de l'avant-bras sur au couteau.
Mais tendue vers soi, ça veut dire qu'on peut se poignarder?
Oui, d'où le fait que les apprentis bouchers portent des cottes de mailles.
Eh bien écoutez, nous en apprenons tous les jours dans la 20e heure.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec la chercheuse, enseignante et chef Ada Lyon.
Rebecca's dead. That's what we got to remember. Rebecca's dead. She can't speak. She can't bear witness. She can't harm you anymore. We're the only two people in the world that know Maxim, you and I. She hasn't won. No matter what happens now, she hasn't won.
1940, l'adaptation du livre de Daphné du Maurier, Rebecca, par Hitchcock. Film vu par vous, Ada Lyon, alors que vous enseignez le cinéma à des élèves de licence et qui vous a fait changer de sujet de thèse.
Oui, en quelque sorte, oui. Je sais pas très bien pourquoi je ne savais pas à l'époque pourquoi ce film avait exercé sur moi une telle fascination. Je l'ai découvert plus tard en commençant cette enquête sur Elisabeth, puisque Elisabeth était ma Rebecca, en quelque sorte.
Votre arrière-grand-mère.
Oui, Elisabeth, mon arrière-grand-mère. Tout à fait, c'est un film qui m'a assez fascinée quand je l'ai vu pour la première fois, et fascinée aussi par toutes les répétitions qu'il y avait ensuite dans l'histoire du cinéma, puisque j'avais l'impression de le voir sans cesse réécrit dans le cinéma, notamment le cinéma américain ultérieur, chez Brian De Palma, chez Paul Thomas Anderson, etc.
Et vous citez aussi Laura d'Otto Preminger, Dragon Week de Mankiewicz, Vertigo d'Hitchcock, et en littérature, à l'origine... Jane Eyre de Charlotte Brontë.
Oui, c'est le Rebecca, donc le roman de Daphné du Maurier et donc l'adaptation d'Hitchcock ont la même trame narrative que Jane Eyre, c'est-à-dire une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme qui lui est socialement supérieur et qui se retrouve confrontée au fantôme de la précédente épouse de celui-ci.
Avant de consacrer votre thèse au double féminin fantôme, vous penchiez plutôt pour Sergei Eisenstein.
Avant ça, je travaillais sur le verre au cinéma et en particulier, j'ai toujours beaucoup aimé Eisenstein pour
le verre, le matériau. Je précise pour les auditeurs.
Le verre, absolument le matériau. J'ai toujours eu un intérêt fort pour Eisenstein à cause de toute sa pensée du montage, dont je pense qu'on retrouve quelques caractéristiques finalement dans mon travail d'écriture et dans Mon vrai nom est Elisabeth. C'était vraiment un penseur du montage et il avait eu cette idée assez folle dans un film qu'il n'a jamais réalisé qui s'appelait Glass House de tourner un film intégralement dans un gratte-ciel de verre et donc que les différentes scènes auraient pu se dérouler en même temps en transparence et donc procéder à un montage dans l'espace plutôt qu'à un montage dans le temps. Et j'aimais beaucoup cette idée de juxtaposition des scènes dans un même plan.
Alors je précise en tout cas, pour revenir à Rebecca et au plan, que vous ferez une présentation du film au Luxor bientôt.
Oui.
À Paris.
Tout à fait, le 29 avril.
Je le redirai en fin d'émission. Vous publiez Ada Lyon, Mon vrai nom est Elisabeth, sur Betsy, cette Elisabeth qui est votre arrière-grand-mère. Quand avez-vous entendu parler d'elle pour la première fois ?
Bah, comme tous les fantômes familiaux, c'est justement assez difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que je me souviens de la première fois où je me suis mise à penser à elle de manière assez intense. Et c'était au lycée, à la proximité de mon lycée ou au début de la prépa, à un moment où probablement que je faisais des crises d'angoisse et donc j'avais une sorte de distance à moi-même, un ressenti physique comme ça de dépersonnalisation que je contrôlais pas du tout. Et c'est à ce moment-là que le spectre de cette arrière-grand-mère, donc ce nom de Betsy, le mot aussi de schizophrénie, sont venus me tourner autour de la sorte. Et voilà, c'est aussi loin, enfin mes souvenirs les plus lointains de Betsy, ça va être cela.
Parce que plusieurs femmes de votre famille jeune avaient ce spectre justement qui planait sur elles, la peur de développer aussi des troubles mentaux.
Ben alors à cette époque, je ne le savais pas. Ça, c'est une chose que je découvre pendant mon enquête, que toutes les femmes de ma famille en passent par des questions et une confrontation à ce personnage de femme folle qui était Elisabeth. Donc au moment où je m'inquiète de ça pour la première fois, je ne sais pas que c'est quelque chose de structurel dans la famille.
Ce qui est frappant, c'est qu'Elisabeth est un fantôme à double titre. D'abord parce qu'elle a été hospitalisée pendant 17 ans, mais aussi parce qu'elle ne figure pas dans vos intérêts principaux au début de l'enquête, puisque vous... Faites attention à ce sujet pour vous détourner d'une relation amoureuse compliquée.
Oui, tout à fait. C'est comme si elle était toujours en creux, Elisabeth, de quelque chose. Mais en même temps, j'étais persuadée que quelque chose se rejouait dans cette histoire amoureuse dysfonctionnelle qui avait trait à elle. Et en fait, même si au départ, effectivement, elle n'est pas, ce n'est pas, je n'ai pas une curiosité pour son histoire, mais c'est plutôt que j'essaye moi de sortir de la mienne. En fait, très rapidement, quand je commence à rencontrer les détails de son existence, je me prends véritablement d'intérêt et surtout d'empathie pour ce qu'elle a vécu.
À ce moment-là, vous souffriez en amour. Mais vous écrivez que quand on souffre, on n'écrit pas et d'ailleurs on n'enquête pas non plus. En êtes-vous sûre ?
Dans une telle situation, honnêtement, oui. Je n'écrivais absolument pas. Ou alors, j'ai peut-être le vague souvenir de 2-3 passages dans mon journal intime, voilà, mais pas du tout quelque chose qui était adressé, pas du tout quelque chose qui était réfléchi, mais plutôt des espèces d'éructations soudaines pour me libérer d'une douleur trop grande ou ce genre de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'avais pas la distance ou la réflexion nécessaire pour mener cette enquête. J'avais l'esprit, je me souviens très bien de cette sensation, l'esprit comme ankylosé, incapable de fonctionner.
Vous dites que vous êtes une personnalité plutôt volontaire et que vous vous demandiez comment vous aviez pu vous retrouver dans une relation aussi dysfonctionnelle. Est-ce que vous l'avez compris depuis ?
Qu'est-ce qui est de l'ordre de la répétition des schémas familiaux, qu'est-ce qui est de l'ordre de ma propre trajectoire qui avait besoin de se prouver certaines choses. Cette relation était d'autant plus dysfonctionnelle que je sortais d'une relation qui, elle, était extrêmement bienveillante, donc elle m'a aussi paru épouvantable par comparaison à ce que j'avais vécu avant, c'est sûr. Et oui, je pense que, on apprend l'amour aussi en vivant des relations de nature très, très différente, si on peut se le permettre, si on peut se l'offrir, et sans doute que j'avais besoin aussi de me confronter à ce que ça faisait quand ça a fait mal.
Vous en êtes sortie enrichie ?
J'en suis sortie avec une... Oui, enrichie, c'est sûr. J'en suis sortie avec quand même une certaine inquiétude et plus la même aisance à me lancer dans des relations amoureuses quand même, je pense, avec une certaine vigilance. Voilà, j'en suis sortie avec une certaine vigilance.
Ça peut être utile.
Je pense aussi.
C'était le docteur Bester, le docteur de l'amour, qui vous donnait ses conseils en direct. En exergue du livre, Adèle Lyon, vous mettez un extrait de La chambre claire de Roland Barthes. C'est ceci. Je voulais l'approfondir, non comme une question, mais comme une blessure. Et je voulais savoir si votre enquête avait eu le même effet.
Oui, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre cette citation-là. Et c'est d'autant plus... c'est d'autant plus important pour moi de mettre cette phrase en exergue qu'au départ, je suis une chercheuse, donc on n'approfondit pas des questions de recherche comme des blessures, on les approfondit précisément comme des questions. Et j'ai eu l'impression que mon enquête, elle se logeait exactement à cet endroit-là, où je devais approfondir l'endroit où cette personne d'Elisabeth me faisait mal, me tiraillait, répétait quelque chose de son histoire en moi. Et donc, effectivement, pas du tout avec la distance critique habituelle de la chercheuse, mais au contraire avec cette implication affective qui était la mienne, qui est aussi celle de Barthes au moment où il écrit La chambre claire.
Ça a été douloureux de faire cette enquête ?
Oui, ça a été douloureux et libérateur, et les deux en même temps, tout le temps en fait. C'est très compliqué de distinguer ce qui est de l'ordre de la souffrance dans ce travail-là, qui réveille beaucoup de choses en moi et autour de moi, dans ma famille, mais aussi au-delà, chez les femmes à qui j'en parlais, etc. Et en même temps, de profondément libérateur, parce que toutes ces paroles qui sont dites, effectivement, elles cassent une protection qu'on s'est forgée par l'oubli, par la distance, par la froideur, mais en même temps, elles permettent de regarder les histoires d'une autre manière et d'envisager, je trouve, l'avenir et la suite avec davantage de liberté.
Je vais vous poser une question un peu à côté, mais Ovid, dans ses Remèdes à l'amour, il dit que quand on souffre par amour, il faut se concentrer sur un autre problème parce que l'autre problème prend la place de la douleur amoureuse. Je ne suis pas sûre qu'il ait totalement raison, mais je voulais savoir si le fait de vous être concentré sur cette enquête avait permis d'amoindrir un peu la peine amoureuse.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans un passage au début, en quelques mots, de dire que j'ai l'impression que cette histoire pourrait être le piolet que je balance en haut d'une falaise pour me sortir de cette histoire amoureuse dans laquelle je me trouve. Oui, il y a un peu de ça. Effectivement, une distraction tout aussi profonde, qui me touche à un endroit tout aussi essentiel que l'histoire d'amour qui est en train de me détruire. Et effectivement, l'enquête sur Elisabeth a cette puissance-là.
Tout à l'heure, on parlait d'une peur qui était répandue dans votre famille, que vous avez découverte en interrogeant les gens de votre famille au cours de votre enquête. Et ça a provoqué chez vous une peur des émotions fortes et des drogues, parce qu'on vous disait souvent que ça pouvait déclencher des troubles psychiatriques ou une schizophrénie.
Mais c'est très étrange comment se construisent les rumeurs familiales comme ça, ou les idées reçues familiales comme ça. C'est vraiment... J'ai toujours perçu que j'avais une terreur vraiment fondamentale de la drogue, de la prise de drogue. J'en prends jamais. Et je savais pas vraiment d'où ça venait. Et en fait, c'est en commençant cette enquête que m'est revenu ce souvenir que je raconte de cette scène où je suis accusée de dealer de la drogue et où mes grands-parents me convoquent et non pas m'engueulent de l'éventualité que je deal de la drogue, mais s'inquiètent de ce rapport à la drogue qui est particulièrement dangereux, disent-ils, pour les personnes de la famille. Et en fait, ce souvenir, c'est quand même fou la mémoire, quoi. Ce souvenir m'est revenu pendant mon enquête et j'ai compris, et c'est un épisode qui se passe quand je devais avoir une quinzaine d'années, et j'ai compris que justement, ma peur de la drogue, qui se continue encore aujourd'hui, se cristallisait sur ce moment d'échange avec mes grands-parents qui m'implante une peur liée à la peur de la maladie mentale.
On va parler de maladie mentale et de psychiatrie tout à l'heure plus en détail, mais est-ce que vous avez fait un travail psychanalytique ou psychologique ?
À un moment de l'enquête, au bout de trois, je pense que j'ai commencé en 2023, oui, à peu près au moment du suicide de Jean-Louis qui ouvre le livre, j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer sans me faire accompagner. Et j'ai commencé à ce moment-là un travail avec un psy, ouais.
Alors Jean-Louis, pour le préciser pour les auditeurs, c'est le fils de votre arrière-grand-mère, l'inventeur du Minitel rose dans le livre, mais je n'ai pas trouvé sa trace.
Non, parce que pas exactement. En fait, c'est la personne qui invente les premières techniques de communication en ligne, c'était des groupes de parole, en fait, des forums de parole, et c'est une technologie qui a été récupérée par le Minitel rose.
D'accord. Donc ça commence par un suicide, ça commence par un mail de suicide où Jean-Louis annonce qu'il va suicider non pas par désespoir mais pour partir d'une façon choisie avant qu'il ne puisse plus choisir sa fin. Et je ne sais pas si tout est vrai dans ce livre, j'imagine, puisque c'est votre thèse initialement. Le mail est très frappant parce qu'il a tout prévu.
Oui, tout à fait.
Ce mail existe ou vous l'avez ?
Ce mail existe. Ce mail est d'une violence radicale. Ce mail, il m'a été transmis par ma grand-mère au moment où elle-même l'a reçu, avec ce commentaire téléphonique. C'est le dernier chapitre de ton enquête. Ce mail existe et tout ce qui précède à cet acte existe aussi, oui.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Je suis avec la chercheuse enseignante et chef Adèle Yon pour son livre « Mon vrai nom est Elisabeth ». On parle d'une enquête familiale qui était initialement votre sujet de thèse. Et chose remarquable, vous avez convaincu vos directeurs de thèse de la nécessité d'inscrire ces recherches intimes dans le cadre de votre thèse. On peut donc écrire des choses intimes dans une thèse ? C'est autorisé ?
C'est un débat, c'est le débat dans lequel je m'inscris justement. C'est tout ce que je défends, c'est-à-dire que le prendre en compte l'intimité du chercheur dans ses questions de recherche, c'est-à-dire pourquoi en fait est-ce qu'il s'intéresse à un sujet, qu'est-ce qu'il fait dans son histoire individuelle, dans son parcours, qu'il va en particulier se porter sur une question, en quoi ça impacte sur la manière dont il va traiter cette question, il ou elle. Et c'est ce que j'ai voulu justement mettre en avant. Et dans ma thèse, il y a une petite partie, toute petite, en plus du livre, qui fait une centaine de pages, et dans laquelle je reviens justement sur ce que ça fait d'être impliqué familialement et émotionnellement dans son sujet de recherche.
La soutenance a eu lieu en décembre dernier, et elle a été assez théâtrale. Est-ce que vous pouvez raconter comment elle s'est déroulée ?
Alors, en même temps, j'ai pas trop envie d'en dire, parce que c'est une forme sur laquelle je continue à travailler.
D'accord.
Avec une metteuse en scène qui s'appelle Lurage à côté, mais je peux juste dire effectivement qu'elle s'est déroulée dans un théâtre avec les 8 membres du jury sur scène pour leur plus grand plaisir.
Et avec une oreillette. Je n'en dis pas plus.
C'est ça.
Vous dressez en tout cas, en mêlant histoire familiale et enquête historique, un état des lieux de l'aide psychiatrique en France au milieu du XXe siècle. Et donc on va parler du personnage de Betsy, votre arrière-grand-mère, qui est issue d'une famille bourgeoise et catholique, je vous cite, où rien n'est jamais formulé, et qui devient, c'est un terme qui est récurrent et qui n'est pas toujours appliqué à elle d'ailleurs dans votre livre, une non-personne.
Une non-personne, un non-sujet, c'est effectivement comme ça qu'elle est souvent désignée par les membres de ma famille. Enfin, au moment où il décide enfin d'en parler, parce que justement, en tant que non-sujet et que non-personne, on n'en parle pas. Et oui, qui dit justement la manière dont elle a été effacée de l'histoire familiale par ses enfants et par son mari.
C'est une victime du silence pour vous. Moi, j'ai brièvement pensé à Camille Claudel en lisant le livre.
Tout à fait, c'est un peu le même genre de parcours avec une femme qui est détruite par un homme de sa famille, en l'occurrence son mari.
André.
André. Alors, chez Camille Claudel, pour des raisons de jalousie essentiellement, mais en même temps aussi parce que c'était une femme qui avait un moyen d'expression, qui désirait s'exprimer par ce moyen, qui était la sculpture, voilà, et à qui on en a voulu pour ça. Et d'une certaine manière, Elisabeth, pour moi, fait partie de cette même catégorie de femmes qui s'expriment. Alors, elle, plutôt par la parole, par la force de son tempérament que l'on discerne très bien dans la correspondance qu'elle entretient avec André et qui est retranscrite en partie dans le livre, et voilà, qui est psychiatrisée pour faire taire sa voix de la même manière que quelqu'un comme Camille Claudel.
Donc vous avez évolué dans une famille qui n'en parlait pas, et ça commence par la mort de son fils Jean-Louis et sa lettre de suicide au début, et c'est là que les langues se sont peu à peu déliées.
Oui, en partie. C'est-à-dire que les langues de mes grands-parents se sont déliées au début de mon enquête, à partir de décembre 2020. C'est ce qui a permis à l'enquête de commencer, parce qu'ils m'ont remis un certain nombre d'archives familiales qui m'ont permis de commencer à mener cette enquête. En revanche, la mort de Jean-Louis a fait que je me suis tournée vers les autres enfants d'Elisabeth et d'André, à qui je n'osais pas parler, je pense, parce que moi-même j'étais dans une forme de honte ou d'inquiétude vis-à-vis de la manière dont ils recevraient ma demande, et qui eux-mêmes n'étaient pas dans un désir de parole. Et c'est vrai que cette mort, ce suicide très violent, a produit une sorte de circonstance où tout d'un coup il y avait un réel besoin, ou en tout cas accord de parole. C'est un interstice qui s'est refermé, hein, je veux dire, qui a été vraiment bref, mais qui m'a permis effectivement de mener ces entretiens.
Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer par quoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Les ayant rencontrés dans ma vie, dans les rangs des communistes chinois, écrasés, assassinés, jetés vivants dans les chaudières et détruits de toute façon, c'est pour ces morts que j'écris.
André Malraux, en 33, à l'occasion de la réception de son prix Goncourt pour son ouvrage « La condition humaine ». Il y a un détail sur lequel j'aimerais revenir, si vous me le permettez, Adèle Lyon. C'est dans le mail de suicide de Jean-Louis, qui était donc le fils de votre arrière-grand-mère. Il parle de livres laissés dans une voiture louée. Et dans les livres qu'il a laissés et qu'il porte à la connaissance des trois personnes auxquelles il envoie son mail, il y a « La condition humaine » de Malraux, un recueil de poèmes de Rimbaud, « Disgrâce » de Coetzee, « Trop c'est trop » de Sandrars et « Les mots » de Sartre. Et vous écrivez « Que peuvent nous dire cinq livres de la vie d'un homme ?» Et je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que à la fois c'est des lectures qui marquent une certaine indépendance vis-à-vis de l'homogénéité culturelle qui est quand même globalement celle de cette famille. Moi, c'est déjà la première chose qui m'a frappée vis-à-vis de ces titres. Et ensuite, il y a tout simplement l'idée que ne rien laisser d'autre de soi qu'un portrait de sa mère et que cinq livres, ça dit finalement un attachement à des choses, je crois, qui ne sont justement pas matérielles. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de... comme si Jean-Louis nous disait « je n'ai rien à léguer moi, d'autres choses ont été léguées de beaucoup plus importantes et je préfère qu'on retienne de moi quelque chose qui n'est pas de moi finalement ». J'entends quelque chose comme ça.
Est-ce que vous les avez lus ces livres ?
Oui, sauf le Coetzee.
Vous allez le lire ?
Oui, je vais le lire, mais après pas parce que Coetzee m'intéresse, mais pas parce que Jean-Louis les a laissés. Je crois pas entretenir un rapport comme ça, matériel à la... Ça peut sembler bizarre, j'allais dire, je ne crois pas entretenir un rapport matériel à la mémoire des morts, ce qui apparaît très bizarre.
Oui, pour une chose immatérielle, oui.
Et en même temps, pas si faux. Enfin, je ne suis pas attirée comme ça par les choses matérielles que laissent les morts, quoi.
Je ne veux pas vous poser de questions impudiques, mais beaucoup de gens ont déjà eu des pensées noires ou ont déjà pensé au suicide sans aller dans cette direction. Et beaucoup de gens se sont dit, si je me suicidais, voilà ce que je ferais. Vous, comme vous avez publié une lettre de suicide de quelqu'un qui s'est suicidé dans votre famille, je voulais savoir, et si vous ne voulez pas répondre, vous pouvez me dire, je n'ai pas envie de répondre. Est-ce que vous avez déjà envisagé ce que vous feriez, vous, si vous saviez que votre vie allait s'achever ?
Mais je pense que c'est une question qui se pose de manière générale par rapport à la mort et pas seulement au suicide. En gros, qu'est-ce qu'on choisit de laisser et comment on l'organise au moment où on part. C'est bien sûr une question qui est très importante pour moi. En plus, il se trouve que je suis quand même entourée par des gens qui réfléchissent beaucoup à ça. Mon grand-père, de l'autre côté de ma famille, vient de mourir et c'est quelqu'un qui a préparé sa mort d'une manière assez obsessionnelle, lui aussi. Donc oui, c'est quelque chose auquel je songe. Mais pour moi, je suis un peu comme Jean-Louis, oui, dans le sens où j'aimerais laisser des livres derrière moi, mais peut-être plus ceux que j'aurais écrits que ceux des autres, aussi, en tout cas.
Bah, ça dure plus longtemps, en général. Est-ce que vous avez fait un plan, puisque votre ouvrage, est, vous usez de plusieurs types de narrations dedans, vous mélangez des mails, des narrations à, une narration à la première personne, des rapports psychiatriques, des enregistrements retranscrits, des notes vocales, des photos?
J'ai fait des centaines de plans, des centaines de découpages. J'avais des organisations en escargot, je me souviens, avec les différents cercles concentriques qui étaient les différentes dimensions de l'enquête. J'ai poussé ça. S'il y a un autre moment de cette enquête où j'ai eu l'impression d'être en contact avec la folie, ça a peut-être été à ce moment-là. Et oui, j'ai testé plein de manières matérielles de rendre visible l'organisation de ce texte. Jusqu'à trouver une solution qui me convenait. Mais ça a pris beaucoup de temps.
Je comprends maintenant ce que vous disiez sur The Glass House de Eisenstein. Quand vous interrogez votre grand-mère sur l'histoire de sa mère pour la première fois, vous vous rendez compte qu'elle n'en a jamais parlé avec personne.
C'est ce qu'elle dit. Après, en fait, c'est toujours comme ça avec ma grand-mère. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, dans cette scène, cette première scène dans la voiture où j'interroge ma grand-mère sur sa mère, elle me dit qu'elle n'en a jamais parlé à personne. Mais je comprends que mon grand-père, son mari, est quand même au courant de pas mal de choses.
Il intervient plus qu'elle même.
Tout à fait. Et il intervient plus qu'elle. Donc, de la même manière que plus tard, une de mes tantes va me raconter qu'elle aussi, elle a posé des questions sur Elisabeth à mon âge et donc qu'elle a interrogé sa mère, qui est ma grand-mère, qui lui avait fait certaines réponses. Donc, en fait, elle en a déjà parlé, mais effectivement, plus peut-être parce qu'on l'a sollicité que d'elle-même. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de parole bloquée à cet endroit-là, où il n'y a pas de désir de parole de sa part. Ça ne vient pas d'elle. Et ça se confirme aussi pendant l'enquête, puisque finalement, elle répond toujours à mes questions et de très bonne volonté, mais elle n'initie jamais vraiment le sujet.
Y en a-t-il qui vous en ont voulu de remuer des choses douloureuses ?
Oui. Bien sûr, parce que ils ont aussi cette idée que je peux comprendre. Hein. Ils et elles ont cette idée que le silence protège et que c'est mettre en danger leur équilibre qui parfois est fragile que de réveiller des choses qui sont aussi douloureuses. Après, je pense et j'ai assisté au fait que chacun a aussi ses propres ressources pour se protéger et quand on se construit toute sa vie avec une mère manquante ou avec un drame familial comme ça, on édifie un certain nombre de protections qui ne vont pas être détruites à la première intervention. La parole ne n'ouvre pas comme ça des brèches qui foutent en l'air quand on a passé sa vie à se protéger de certains événements. Donc je pense qu'il y avait cette peur-là. Je ne suis pas sûre que la parole ait surgi et vraiment engagé un risque à cet endroit-là.
Une question formelle, pourquoi des pages noires ?
Parce que c'est vraiment des... Je me les représente vraiment comme des blackouts. Enfin, j'utilise le terme anglais, mais...
Ou cinématographique, ou fondu au noir.
Ouais, tout à fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est même comme si... c'est aussi des moments qui sont caractérisés par des ellipses. Donc, c'est un peu comme si Betsy ou moi, on fermait les yeux à ce moment-là, et puis on les rouvrait dans une autre période, soit de mon enquête, soit de son existence à elle. C'est effectivement un code qui est très cinématographique. Je pense que ça m'est venu de là. Et c'est aussi... Je pense qu'elles ont quelque chose d'un peu violent, ces pages noires. Dans l'idéal, j'aurais presque aimé qu'il n'y ait pas ce 1 et 2 sur ces pages noires et qu'elles soient juste intégralement noires. Et c'est aussi pour dire la manière dont elles interviennent à des moments où la vie est comme ça brusquement coupée. La première page noire marquant effectivement le moment de la lobotomie.
Tienen las flores llorona, las flores del Camposanto.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo.
C'est votre choix musical, Adèle Yon, Chavela Vargas, La Llorona, La Pleureuse. Pourquoi ?
Alors c'est une chanson qui est liée à l'autre côté de ma famille, mais donc Chavela Vargas venait du Mexique et ma mère a grandi au Mexique dans les années 70 et c'est une chanson que j'ai entendue, je reparle de mon grand-père décédé récemment, mais que j'ai entendue, que ma mère et ma tante ont choisi de passer à l'enterrement de mon grand-père, et en écoutant les paroles que j'ai pas bien entendues à ce moment-là, mais que j'ai très bien entendues à un concert de Clara Isée il y a 2 semaines qui a fait une reprise absolument magnifique de cette chanson. En écoutant les paroles, je me disais mais c'est exactement ça, c'est la Llorona, c'est la femme qui a tué ses enfants et qui est l'éternelle pleureuse. Et j'ai trouvé quelque chose du lien d'Elisabeth avec ses enfants qu'elle n'a pas pu aimer. Alors c'est un peu de cet ordre-là aussi dans la Llorona, c'est celle qui est empêchée d'amour maternel et qui se retrouve à une place de tristesse éternelle, quoi.
Est-ce que vous pleurez facilement ?
Je pleure facilement de colère ou d'émotion forte, mais je pleure pas de tristesse, quasiment jamais.
C'est surprenant.
Ouais.
Et de joie ?
Pas de joie non plus, plus vraiment de... Par exemple, devant cette interprétation de la Llorona par Clara Isée, j'ai été vraiment emplie de larmes, mais... je saurais pas dire si c'est de la joie ou de la tristesse, c'est simplement un moment de saturation émotionnelle, ouais.
In school, I learned about the women who had been murdered in the medieval witch trials. Some of them were healers and midwives. Some of them had lost their minds. 3 years ago, I gave birth to my son. Within a month, I was admitted to a psychiatric ward. It is chilling to realize that if I'd been alive back then, I would have been considered evil, a witch.
Ectopic pregnancy.
That was 400 years ago. Why is there still so little awareness around these illnesses?
J'ai demandé une découverte pour les auditeurs. Adèle Yon, ça entre en résonance terriblement avec votre livre. Qu'est-ce qu'on entend ? Je vous laisse le dire, parce que le nom de la réalisatrice... C'est presque
pas de
le
ma
même.
Faute, hein.
Oui, mais vous l'avez remarqué aussi.
Tout à fait. C'est un extrait de Witches d'Elisabeth Sankey.
Elisabeth.
Tout à fait. Alors avec un Z, elle.
Oui,
oui. À l'anglo-saxonne. Tout à fait, vraiment, elle me poursuit. Non, mais ça va jusqu'à... Là, j'ai pris rendez-vous chez l'esthéticienne la semaine dernière, je vous jure. Il y avait écrit « Choisissez la personne qui va vous faire le soin ». Et il
n'y
avait qu'un choix, c'était Elisabeth. Non, mais vraiment, ça ne s'arrête jamais.
Oui, là, on dirait presque un film d'épouvante, mais d'épouvante tendre.
C'est ça.
Alors ça, c'est sur la dépression postpartum.
Ouais. Tout à fait. Alors, c'est un film que j'ai découvert il y a un mois, donc il y a vraiment très très peu de temps, et qui m'a alors énormément plu déjà cinématographiquement, parce que j'adore, c'est ce qu'on peut appeler un film de remploi ou un essai cinématographique. C'est un film qui est constitué en grande partie de séquences cinématographiques prises dans d'autres films, croisées avec des entretiens de femmes menées aujourd'hui. Donc il y a aussi ce rapport entre documents et entretiens qui est vraiment ce que j'aime faire et ce que je fais dans Mon vrai nom est Elisabeth, déjà. Donc en lui-même, il m'a intéressée. Et en plus, il m'a permis d'approfondir cette question de la dépression postpartum, ou quasiment ce qu'on peut appeler aussi de la psychose puerpérale, c'est-à-dire des moments après l'accouchement qui peuvent aller jusqu'à vraiment des hallucinations, enfin des choses extrêmement violentes, extrêmement fortes, qui peuvent faire penser à d'autres maladies psychiatriques. Et donc, ça, j'ai appris beaucoup de choses en fait via ce film. Disons que ça a élargi mon imaginaire de ce qu'avait pu vivre Elisabeth au moment de la naissance de ses 6 enfants, et que je relis aujourd'hui, enfin je comprends aujourd'hui ces troubles comme justement liés à une psychose puerpérale.
Ah oui ?
Ouais, tout à fait.
Alors justement, pour parler d'Elisabeth, tout à l'heure vous avez prononcé le mot lobotomie. Elle a subi une lobotomie. On apprend sous votre plume, Adèle Yon, que c'était en immense majorité pratiqué sur des femmes. À un moment, vous introduisez même une photographie très dérangeante, puisqu'on voit une lobotomie comme pour une publicité à côté d'une publicité de chaussures.
C'est pour ça que j'ai choisi cette image qui est donc extraite, c'est une page de la revue Life, et c'est la toute fin d'un article assez long qui doit faire peut-être 3 doubles pages, et c'est la dernière page de droite, et on a fait effectivement un montage extrêmement perturbant entre les dernières photographies de cette opération de lobotomie et une pub pour les chaussures qui se trouve collée à ces images de cerveau en train d'être opéré, ce qui pour moi est encore une fois une sorte d'illustration de cette idée du double fantôme, c'est-à-dire la femme qu'il ne faut surtout pas être, celle qu'on opère à coups de bistouri dans les hôpitaux psychiatriques, et la femme qu'il faut être, cette superbe mannequin en train de vendre les chaussures dans un magazine populaire de l'époque.
Tout à l'heure, on a mentionné André. Vous reproduisez un peu la correspondance qu'il y avait entre votre arrière-grand-mère Betsy et son mari André. J'aimerais bien qu'on parle un peu de lui, parce que tout est dérangeant dans ses lettres. C'est-à-dire que même les premières où ils se font la cour, où ils sont censés être très amoureux, il dit « il faut que vous soyez toujours belle ». Là, ça rejoint un peu ce qu'on vient d'évoquer. Il est autant attiré par sa faiblesse qu'exaspérée par la suite, et elle deviendra vite un problème dont il voudra se débarrasser par une lobotomie, et en la quittant purement et simplement pour une autre femme. Il y a quand même un moment dans une de ses méditations que vous reproduisez, donc ces méditations, j'imagine que c'est une sorte de journal intime dans des prières qu'il écrivait.
C'est des prières, elles sont adressées au Seigneur, oui.
Eh bien, il ne pense qu'à lui, évidemment, dans chacun des textes, et il dit, à un moment, il demande à ce que sa femme guérisse vite, ou alors qu'elle soit rappelée auprès du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle meure.
Oui, pour moi, cette phrase-là, ça a été justement la preuve que André avait totalement conscience de ce qu'était la lobotomie. Et une des découvertes importantes de mon enquête, c'est que le mari André et le père Louis prennent la décision de la lobotomie contre avis médical.
Donc des hommes souvent sur des femmes, puisque ce sont les femmes qui ont le plus subi de lobotomie dans l'histoire.
Oui, absolument. Alors après, il n'y a eu aucune étude globale sur la question, mais tout prête à le croire. Et effectivement, moi, j'ai croisé une immense, immense majorité de femmes lobotomisées. Et donc, ces hommes prennent la décision de lobotomie contre avis médical. Et on disait dans la famille, oui, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Ils pensaient bien faire, ils pensaient qu'elle allait guérir, etc. Et pour moi, cette phrase, justement, qui est écrite dans ses méditations, que Betsy guérisse vite, ou alors rappelez-la à vous, écrit-il au Seigneur, c'est justement la démonstration, la preuve du fait qu'il savait très bien dans quoi il s'engageait et qu'il préférait, enfin qu'il avait pris cette décision, que la mort valait mieux que d'avoir une épouse qui ne lui convenait pas.
Et pourtant, il y a eu à un moment des rumeurs au sujet de la lobotomie quand on ne savait rien dessus, où on pensait sincèrement, enfin certains pensaient sincèrement qu'elle pouvait rendre les gens plus heureux.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est difficile de savoir ce que les gens pensaient exactement, mais il y a effectivement eu tout un battage médiatique, mais principalement américain, et initié par Walter Freeman, sur lequel je mène une partie de cette enquête, qui était le lobotomiste américain, et où effectivement les journaux et les revues américaines ont parlé de miracles. Et donc avec certains témoignages de personnes qui avaient été lobotomisées à l'appui et qui expliquaient que leur vie avait changé suite à ça, etc., etc. Mais globalement, enfin ça, ok, peut-être que c'est porté par une certaine presse grand public, Mais en revanche, les médecins de l'époque disaient très bien et savaient parfaitement et exprimaient publiquement le fait que la lobotomie, elle fonctionnait, mais en perdant certaines capacités de ce qu'ils appellent l'âme humaine, quoi, certaines capacités de création, de projection, etc.
Adèle Lyon, quand vous interrogez la fille aînée de Betsy, elle finit en entretien par cette phrase « Je ne peux pas dire plus que ce que j'estime être la vérité, ma vérité ». Ça, c'est un résumé de toute la parole émise par l'humanité.
Oui, je suis d'accord, tout à fait. Et même, finalement, de ce que j'ai essayé de faire aussi. C'est-à-dire que finalement, j'essaye de construire ma vérité à partir des sources qui me sont accessibles, les documents, les voix des membres de ma famille, etc. etc. Mais j'ai bien conscience que je ne pourrait jamais accéder à la vérité, à la personne vraie qu'a été Elisabeth, à son véritable ressenti, etc. Et pour moi, cette phrase de ma grand-mère, elle résume aussi vraiment mon éthique d'écriture.
Parce que elle vous dira aussi, tu fais le travail qui doit être fait, tu mets des mots sur une affaire familiale qui est douloureuse, et vous écrivez tout de même dans le livre, comprendre ne résout rien.
Comprendre ne résout rien, c'est une phrase qui m'est dite par une nièce d'Elisabeth que je vais voir à la toute fin. Mais je retravaille cette phrase, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce choc de réaliser qu'au terme de 4 ans d'enquête, maintenant que j'ai pu retracer assez précisément les étapes de la vie de Betsy, etc., ça ne m'apporte pas de soulagement véritablement. Le mal a été fait, même je le vois encore plus finalement, je vois aussi les conséquences qu'il a sur cette famille à plus long terme. Mais ce que j'écris aussi, c'est que comprendre en tout cas cette histoire a éveillé en profondeur de la colère chez moi, et cette colère, elle résout pas d'une certaine manière, on peut même dire qu'elle empire, parce qu'elle ouvre, elle crée des béances comme ça dont on se remet pas, mais pour moi elle ancre, elle pose un endroit de la vie que j'ai, dans lequel j'ai envie de rester, quoi. Et à cet égard, elle ne résout rien, mais elle ouvre véritablement des choses.
Justement, j'aimerais que ce soit la dernière question, une question sur la colère. Vous vous questionnez dans le livre, vous vous demandez si la colère peut être un attribut féminin. Je ne vais pas vous demander si vous êtes en colère puisque vous y avez déjà répondu. La réponse est oui. Et puis ça peut être sain, parfois ça peut être un moteur. On a empêché beaucoup les femmes culturellement d'exprimer leur colère. Tout à l'heure, vous avez même dit que parfois quand vous pleuriez, c'était quand une émotion était trop forte, notamment la colère. C'est la première émotion que vous avez citée. Quel est votre rapport à la colère aujourd'hui ? A-t-il été modifié par l'écriture de ce livre ?
Oui, il a été modifié parce que je comprends aujourd'hui la source de ma colère au double sens de d'où elle vient dans mon histoire familiale et d'où elle vient, c'est-à-dire qu'est-ce qui me met en colère. Et le fait de pouvoir tracer un lien de causalité entre son émotion et la source fait que c'est une émotion qu'aujourd'hui je peux défendre, décortiquer et surtout, c'est ce qui me semble le plus important, partager. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ma colère, je dis souvent qu'elle est collective, c'est-à-dire qu'elle est, elle est appropriable par d'autres, elle est discutable et elle n'est plus dirigée vers rien, quoi. Elle est orientée vers des choses qui m'importent en profondeur.
Merci beaucoup Adèle Lyon.
Merci à vous.
Mon vrai nom est Elisabeth est paru aux éditions du Sous-Sol. Une rencontre aura lieu au cinéma Le Luxor le 29 avril prochain à 19h après la projection de Rebecca d'Hitchcock. Vous serez également le 11 avril prochain au Festival du Livre de Paris, le 16 mai à la Comédie du Livre de Montpellier et fin juin au Marathon des Mots à Toulouse. Et là je vais aller à rebours, vous serez au Bal à Paris le 10 avril à 19h pour une rencontre à plusieurs intitulée « Déconstruire l'hystérie, résister aux représentations ». Et vous serez demain à la librairie à l'Ouest à Paris à 19h. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Emma Bouvier. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Benjamin Wagon.